Cambridge Assessment International Education. Pre-U French Principal Course 9779, Paper 2, 2020. Part 2. Listening. Texte à écouter 1. La guerre contre les pailles en plastique.
Alors, Madame Chiari, pourquoi militez-vous contre ces pailles?
Ça fait bien sûr partie de la lutte générale pour débarrasser nos océans des 8 millions de tonnes de déchets en plastique qui y sont déversés chaque année. Étant moi-même passionnée de plongée, j'ai vu de mes propres yeux les effets dévastateurs de ces déchets qui flottent sur les plus beaux récifs de corail. Au rythme de croissance actuelle, d'ici à 2050, les scientifiques prédisent plus de plastique en poids que de poissons dans les océans.
Mais c'est affreux.
Tout à fait. Les pailles ne représentent certainement qu'une infime partie de tout ce volume, on est bien d'accord. Mais rien qu'aux États-Unis, on en utilise quotidiennement près de 500 millions, assez pour faire 2,5 fois le tour de la planète. Et pourtant, il y a 20 ans, vous savez, on s'en servait beaucoup moins. Aujourd'hui, on vous en donne une automatiquement, même si vous ne commandez qu'un simple verre d'eau glacée. C'est ridicule.
Alors comment expliquez-vous leur popularité ?
C'est au début des années 2000 qu'on a constaté une forte augmentation lors des épidémies de grippe qui ont touché divers pays. Soudain, elles étaient partout. Depuis, les consommateurs considèrent comme normal d'avoir une paille, même s'il s'agit d'une habitude bien plus que d'une nécessité.
Mais comment quelque chose de si petit peut-il avoir de si grandes conséquences ?
C'est justement à cause de leur taille qu'elles sont difficiles à détecter. Les poissons, animaux et oiseaux marins les confondent avec de la nourriture et les avalent. En 2015, 11 millions de spectateurs ont été choqués par une vidéo sur YouTube dans laquelle des biologistes retirent des pailles enfoncées dans les narines d'une tortue de mer. Et n'oublions pas non plus que tout ce plastique peut finir dans notre propre chaîne alimentaire. Et pourtant, des alternatives biodégradables existent, en carton ou en pâte alimentaire creuse, par exemple.
Mais c'est très bien. Parce que, bon, une paille, c'est aussi un moyen fantastique de faire des bulles dans son verre, n'est-ce pas ?
Texte à écouter 2. Un psychologue réputé parle du rythme scolaire.
On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Faut-il continuer d'apprendre cette idée aux enfants ? On ne peut nier l'importance de développer chez eux le goût de l'effort. Mais en ce qui concerne les horaires scolaires, une étude vient en effet de conclure qu'il vaudrait mieux différer le début des cours pour les lycéens et les étudiants. Voilà une étude qui devrait plaire aux adolescents et aux lève-tards qui forment un important contingent des étudiants universitaires. Il serait tout de même cohérent que les horaires soient en phase avec leur rythme naturel, étant donné que les changements chimiques cérébraux liés à la puberté reculent d'au moins une heure l'endormissement la nuit. Il s'ensuit que les adolescents ont une heure naturelle de début de journée plus tard que celle des adultes. Préférer les heures tardives n'est donc pas forcément signe de paresse, malgré l'avis de ceux qui voient tout cela d'un œil plutôt cynique. Ceux-ci estiment que plus on retarde l'heure des premières sonneries à l'école, plus le réflexe des adolescents sera tout simplement de se coucher encore plus tard ou de faire la grasse matinée. Démarrer les cours légèrement plus tard serait certainement un atout pour la santé physique et mentale des jeunes, chez qui une carence chronique de sommeil peut mener à la dépression et à la toxicomanie. Une nuit de sommeil plus longue permet de meilleures performances académiques, surtout en calcul et en orthographe. Selon leurs professeurs, les jeunes qui en bénéficient ont également une fréquentation scolaire accrue. L'étude montre que les deux tiers des étudiants travaillent mieux le soir. Et n'en déplaise aux parents, la science semble donner raison à leur mode de vie préféré.
Texte à écouter 3. Les sodas. Les boissons gazeuses aromatisées, commercialisées pour la première fois en 1792, ont connu, au cours du XXe siècle, une véritable explosion des ventes, même si, pour l'instant, le marché semble avoir plafonné. On sait bien que les composants de base d'un soda sont de l'eau carbonisée, des extraits de plantes ou fruits et du sucre ajouté. Mais en ce qui concerne le détail, les nutritionnistes trouvent impossible de tirer les vers du nez des fabricants. Ceux-ci restent extrêmement réticents sur les recettes précises de leurs produits, ne voulant pas divulguer leurs secrets commerciaux aux concurrents, mais aussi pour entourer leurs produits d'une aura de mystère. Mais ces dernières années, les sodas sont devenus symboles de malbouffe et sont accusés de tous les maux. Prise de poids, vieillissement accéléré du cerveau, dents rongées par l'acidité, etc. Le gouvernement menace d'augmenter massivement les taxes sur ces produits, afin de faire chuter les ventes, à moins que les producteurs ne réduisent la teneur en sucre dans un proche avenir. Sous cette pression, les grandes marques tentent de redorer leur image en sortant des versions alternatives. Malheureusement, les jeunes Français, plutôt conservateurs de nature, ont tendance à faire les dégoûter, malgré des campagnes publicitaires agressives.
This is the end of the recorded material.